ce programme, une initiative de Sousa Manifeste vous est proposée par la Fondation MAM et de Muntu Institute Foundation.
Se marier en pays Bangkok, une présentation de Parfait Akana.
À Makemba, le mariage n'est plus ce qu'il était. Dans cette bourgade qui prolonge celle de Grand Souza en direction de Bois Paki, des nostalgiques de l'art de se marier à l'ancienne existent. Il en est ainsi de Jacques Bonny, porte-parole du village et fonctionnaire au ministère de la Défense à Yaoundé. En cette journée ensoleillée de décembre, il évoque avec nostalgie la crise de la transmission des rituels de la nuptialité chez les Bangkon, avec leur scénographie toute particulière. Une scénographie qui, dans certains cas, permet d'éprouver le cadre des relations bilatérales entre communautés. Le mariage, à ce titre, dans une communauté qui pratique l'exogamie, est une véritable praxis de la diplomatie. Au-delà de l'union entre deux personnes, c'est un village qui rencontre un autre village. Et les deux éprouvent, dans des échanges cérémoniels préparatoires à l'accord, non seulement la bonne santé de leur relation, mais aussi la mise en ordre d'un monde commun, la formation de nouvelles alliances.
Difficilement, les gens de Makemba se mariaient entre eux. Les mariages, les Bangkon, en principe, c'était des mariages entre les villages voisins. C'est-à-dire que quelqu'un partait d'ici, à 2,5 km de Bois Paki, voyait une femme qui l'intéressait et passait par ses amis de Bois Paki parce que les villages sont voisins. On a des amis à Bois Paki comme on a des amis à Grand Souza. D'ailleurs, Makemba, c'est un quartier de Grand Souza.
Le principe des alliances matrimoniales de nature exogamique est confirmé par l'officier d'état civil de Grand Souza, Martin Gengmengu. Il souligne tout l'intérêt, dans ce contexte, des liens d'amitié extra-communautaire. Avoir des amis résidant dans des villages environnants est un peu comme avoir des agents de liaison capables de faciliter des contacts et d'établir des connexions. C'est la marque ici d'une exogamie relative qui concerne des conjoints résidant dans des communautés limitrophes, tout le contraire d'une exogamie absolue.
Les mariages se faisaient à travers les amis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je me sentais déjà homme, je partais vers mon voisin, un village par exemple, Bois Paki, qui est d'abord le village le plus proche, un village Kake, qui est aussi un village très proche. À travers ces amis, donc, je m'obligeais. On avait à cette époque-là ce qu'on appelle le bolo-bo. C'était une danse traditionnelle qui a disparu comme ça. Et ça se faisait pendant qu'il y avait clair de lune, on pouvait faire le bolobo jusqu'à 20 heures. Donc c'est là où donc tu piques.
Le bolobo, encore appelé bolbo, est un rythme traditionnel des peuples de la côte camerounaise. Il est joué de manière vive et dansante, avec des tambours et des tam-tams. Le bolobo est basé sur des mouvements d'ensemble et est exécuté lors des rituels de célébration, mais aussi pour favoriser des socialisations affectives. En effet, chez les Bangkon, il jouait une fonction essentielle qui était de tester la capacité du jeune garçon à séduire les filles, comme une sorte de prélude aux fiançailles. Une fois que le test était concluant, le père du garçon pouvait entrer en contact avec le père de la fille qui, en retour, évaluait le prétendant à travers un rituel précis.
Le père de la fille t'invite au pressoir, le pressoir traditionnel, pour voir si tu connais les travaux du village, si tu connais presser avec les pieds et tout ça, si tu connais grimper, on avait des cerceaux, tu grimpais, le beau don apprécié dit, hey, ça c'est un nom qui peut prendre ma fille.
Toutefois, la prise de contact entre les deux familles ne constituait que le premier mouvement d'un processus long, complexe et fait de tractations diverses. Ici étaient mises à l'épreuve les capacités de négociation et de consensus des différentes parties, mais aussi la générosité de la famille du prétendant, mesurée à l'aune des présents offerts durant cette phase. La division genrée des tâches n'était pas en reste. L'initiative de la conduite des pourparlers était du ressort de l'homme. La prospection et la détection des talents de la future épouse, reposant la plupart du temps sur ses aptitudes au travail et à ses bonnes manières, étaient quant à elle du ressort de la femme. Sitananga, une matriarche bankone traduite ici par sa fille, raconte.
La famille du garçon pouvait être de l'autre côté, la famille de la femme de ce côté. Mais c'est les parents de l'homme qui cherchaient la fiancée. Parce que, par exemple, la maman, elle pouvait dire à son mari que notre fils est déjà grand, mais il y a une famille là-bas, on voit une jeune fille, apparemment, elle est vaillante, elle travaille beaucoup, elle est polie et tout ça. S'ils viennent alors comme ça parler à cette famille-ci, s'ils acceptent, c'est là où le garçon, ses parents vont l'amener voir la proposer. S'il est d'accord, ok, ils repartent. Les parents commencent à faire les petits cadeaux, jusqu'à ce que la dot arrive.
Ces démarches correspondent à un moment bien connu de la scénographie nuptiale chez les Bantous, communément appelé au Cameroun le toqué-porte. Il s'agit de la présentation officielle du prétendant et de sa famille qui, par ce geste, sortent en quelque sorte de la clandestinité et affirment publiquement leurs intentions. C'est la fin de la discrétion et la reconnaissance d'une fréquentation pour laquelle les protagonistes nourrissent un destin plus officiel. Ici, bien que ce moment s'accompagne de présents, il ne s'agit à proprement parler pas encore de dot.
L'homme vient avec quelques membres, ils viennent dans la famille de la femme, ils donnent ce qu'on va leur demander. Très souvent, on demande une bouteille de Saint-James, on demande la bière et on demande une enveloppe.
Sitananga.
Ils donnent trois enveloppes parce que le toqueur à la porte, là, il y a les réponses qu'on donne. La jeune fille, une enveloppe. La mère, une enveloppe. Le père, une autre enveloppe.
Le choix de la future épouse fait et l'accord des parties prenantes scellé. Il restait encore un ensemble d'opérations à accomplir, parmi lesquelles la formation de la préposée. Véritable épreuve initiatique, faite de contraintes et de restrictions diverses, mais aussi d'apprentissage. Au cours de celle-ci, le formatage de la future épouse à ses prérogatives domestiques et traditionnelles constituait un indicateur de qualité. En fait, l'initiation de la future épouse était une réponse en acte à ce dont une bonne femme est le nom chez les Bankone. Le notable Ewane explique.
On devait choisir une femme sérieuse dans la famille. Elle va rester d'abord là-bas, qui va l'initier à faire le lit, à préparer, à faire repasser tout. Ça pouvait même passer même un an comme ça. Tu restes seulement. Tu peux venir visiter. Mais tu ne touches pas avec elle.
Et tant chez ta tante là.
Elle est en prison, là-bas. En initiation. Elle va rester là-bas. C'est là-bas qu'on va viendra te dire, non, ta femme est déjà apte de rester en mariage.
Jacques Bonny renchérit.
J'ai assisté à une entrevue avec une maman qui disait, Quand tu vas en mariage, la première des choses, c'est que en aucun moment, tu ne dois jamais, et je dis jamais, refuser de coucher avec ton mari. Quel que soit le cas, tu ne dois jamais refuser de coucher avec ton mari. Tu ne dois jamais refuser de laver ses vêtements. Tu ne dois jamais refuser de faire sa nourriture. Tu peux faire autre chose, mais ces trois choses étaient prioritaires.
En plus du temps de préparation de la fille, il y avait celui de la préparation de la cérémonie de la dot. Surtout de la part de la famille demanderesse qui avait préalablement reçu des indications sur ce que la famille de la fille attendait pour finaliser son union. Le jour J, une forte délégation prenait le chemin du domicile de la fille à épouser, chargée de victuailles et porte-parole bien préparée. Martin Gangmengou raconte.
En principe, chaque famille avait son porte-parole. C'est avec ceux-là qu'ils échangeaient. Mais vous êtes dans l'ensemble, vous faites le rond. Et la calabasse de vin est au milieu. Il y avait quelqu'un, c'est pas n'importe qui se levait pour donner le vin. On désignait quelqu'un dans la famille. Nous, on appelle ça orateur. Nyo, qui veut dire orateur, le porte-parole de la famille.
Durant les débats, les mets les plus prestigieux, ainsi que les liqueurs et autres vins de qualité, étaient alors convoqués. C'est encore le cas aujourd'hui. La culture bankone à cette occasion, comme du reste toutes les autres cultures humaines, dévoile comment elle opère la distribution du sens des choses, plus précisément de ses aliments cérémoniels, et quelles en sont les implications au plan symbolique et au plan logico-formel. Elle classe, elle évalue, elle hiérarchise et elle discrimine entre ce qui est bon à manger et ce qui ne l'est pas. Le bon à manger, selon ses normes internes, est dans ce cas une invitation à poursuivre et à conclure le processus cérémoniel du mariage. La preuve formelle d'une union sans risque de possession mystique ou d'attaque sorcellaire. Martin Gang précise.
Quand officiellement on voulait donc venir donner la femme chez son mari, la belle famille faisait le mets de pistache, le ngonda mokon. Et dans ce ngonda mokon, on ne mettait rien de particulier. Il y avait des choses de tradition qu'on mettait dedans pour empêcher la sorcellerie en fait. Parce que quand le ngonda mokon arrive, on le met sur les feuilles de bananier. On prend une machette. On fend. Si le mariage est bon, son ngonda mokon est cuit. S'il n'est pas bon, tu verras que la matière ne va entrer, mais va sortir avec des boules. Ça veut dire que le ngonda n'est pas cuit. Mais quand il est cuit, tu mets comme ça, comme quelqu'un qui fend le pain. Est-ce que quand tu fends le pain, ça reste...
Non,
ça sort, le couteau sort sec. C'est un peu ça qu'on testait. C'est, donc c'était une forme mystique, en fait.
De sceller le...
Oui, pour s'assurer.
Et quand le ngonda mokon n'était pas cuit?
Non, c'est un mauvais mariage.
On ne pouvait plus...
Non, et ça ne continue pas.
Même si on avait le gars qui a commencé...
Non, il reste comme ça. Mais c'était des cas rares. Parce qu'à cette époque, il y avait des familles sorcières. Avant que moi, je suis ton ami, je ne vienne chez toi, je sais que mon ami est sorcier.
Et pour sceller le mariage, les ultimes recommandations du père à sa fille. Une fois de plus, Martin Gang.
On demande à la fille, tu acceptes d'aller chez ce garçon. Tu ne vas jamais fuir de ce mariage. Nous, on appelait ça à l'époque, pour appeler ça, abandonner le foyer. Tu ne vas jamais l'abandonner. Elle répond oui. On demande au garçon, il répond également. Si tic un peu, on lève la science. Si l'un des deux tique, on lève la chance, dit il n'y a pas encore de sentiment. Donc on vous laisse une certaine période d'observation pour voir.
Ce cérémonial, aujourd'hui encore, est d'actualité. Il ouvre la voie au mariage. Toutefois, il pouvait arriver que le scénario soit tout autre. Comme si Tananga, certaines promises se faisaient enlever par leurs prétendants et l'entourage de ceux-ci, avant que la dot ne soit intégralement versée. Un rituel bien connu de Sitananga. Sa fille restitue son expérience.
Elle était allée à la rivière parce qu'en ce moment, on trempait les manioc dans l'eau à la rivière. C'est là-bas qu'elle était allée avec son petit frère. Les colos gars-là, son fiancé leur avait déjà dit qu'aujourd'hui, elle doit venir à la maison. Ils se sont mis aux abords du marigot. Elle avait fini d'enlever le manioc de l'eau. Elle s'était même déjà lavée. À peine elle finit de s'habiller, paf, on vient la prendre. Elle dit, ouais, on la met à l'épaule. C'est la course. Elle dit, ouais, je vais laisser mon petit frère. Il répond qu'on va l'amener chez vous. On va l'amener à la maison. Pardon, ne me jetez pas à terre où je suis malade. Tu vas guérir, tu vas guérir. C'est comme ça qu'on l'a prise à amener à son mariage dans sa belle famille.
L'autre rituel qui met d'accord tout le monde, c'est celui du drap. C'est l'épreuve de la virginité. Le sang de la fille justifie ses parents et les honore. C'est le gage de la respectabilité de la famille qui donne sa fille en mariage. En pays Bangkon, ce rituel porte le nom de Sombo. L'épreuve de la virginité, c'est d'abord et avant tout une épreuve morale qui évalue la qualité de la transmission des valeurs de l'une des parties contractantes. Le Sombo est, du point de vue d'une anthropologie morale, le test décisif d'un projet d'affiliation dans une configuration ethnoculturelle où les parents sont autant les ayants droit de la gloire de leur fille que les destinataires de son déshonneur. Écoutons Martin Gueng.
Quand elle était vierge, on avait la natte, mais pas les nattes comme celles d'aujourd'hui. Hein. On avait des nattes qui pouvaient, c'est-à-dire que tu pouvais te coucher sur cette natte. Le sang ne traverse pas. Ça reste là. Et quand le matin, on vient voir, on trouve ce bain de sang là. On sait que voilà, elle est venue, elle n'était pas encore de vierge.
En pays Bangkon, il est arrivé plus d'une fois que le mariage connaisse d'autres destins. Dans des cas de grossesse hors mariage, il pouvait arriver que le père conduise sa fille de force chez le mis en cause et l'y laisse pour la vie. Dans d'autres cas de figure, moins conflictuels, lorsque le prétendant était démuni et incapable de régler la dot requise, la possibilité d'un mariage à crédit était aussi une option.
Yeah.
Toutefois, s'il venait à mourir sans avoir réglé sa dette, sa progéniture devait impérativement s'en acquitter pour conjurer le mauvais œil sur l'ensemble de la lignée. Enfin, bien qu'étant de rigueur chez les Bankon, le mariage conserve aussi ici, pour le pays, les exceptions de sa règle. Ces exceptions concernent prioritairement, dans une division genrée de la honte, celles qui en sont exclues, celles qui demeurent célibataires, éternisent les marges de leurs parents. Jacques Bonny témoigne.
Chaque parent aimerait voir son beau-frère venir lui rendre visite. Quand il a des soucis, il peut aussi aller là-bas, faire 2 ou 3 jours. Donc, ne parler en mariage chez nous, c'était comme si... C'est pas comme aujourd'hui, hein. Moi, ma fille, qu'elle aille en mariage ou pas, je m'en fous. Mais à l'époque, c'était comme si on avait raté son éducation, comme si la famille a été maudite et tout. C'était très compliqué.
Ce programme, une initiative de Souza Manifeste, vous est proposé par la Fondation MAM et de Muntu Institute Foundation.